franceinter.com.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les best-sellers, une histoire impossible avec Philippe Rouvillois, bonjour.
Frédéric
Rouvillois, oui, je confonds toujours.
Bonjour Jean.
Les deux frères, juriste atypique, habitué des enjeux vertigineux, vos livres récents.
Histoire de la politesse, histoire du snobisme, le collectionneur d'impostures.
Voilà. Vous attaquez chez Flammarion. En cette période de rentrée littéraire, et chez Flammarion toujours, le sujet des best-sellers avec un titre modeste.
Une histoire des best-sellers, donc pas l'histoire universelle à laquelle j'aurais dû prétendre peut-être, mais simplement une histoire.
L'ère de la vitesse a commencé il y a 150 ans, disait Paul Morand, avec le chemin de fer, et celle des best-sellers avec l'accélération des modes d'impression, des modes de diffusion à peu près à la même époque. L'expression best-seller apparaît, dites-vous ?
Apparemment, autour de 1889, elle se diffuse très rapidement dans le monde anglo-saxon et apparaît en France à partir des années 20.
Mais le mot, c'est un fourre-tout, ajoutez-vous, parce que selon les périodes, il ne s'applique pas au même seuil. À notre époque d'industrie culturelle, on compte par millions, voire dizaines de millions d'exemplaires. Et il y a un siècle, au temps de la littérature industrielle, on calculait seulement en centaines de milliers d'exemplaires. Et puis d'un best-seller, on parle généralement comme d'un succès prévu, calculé, voire manipulé, ce que nous allons inévitablement faire. Mais vous, ce qui vous intéresse le plus, peut-être, c'est le succès imprévu.
En fait, c'est les deux. Et le fait que derrière cette étiquette de best-seller, il y ait à la fois le miracle et l'industrie lourde.
Alors, le miracle, ce sera la fin de l'émission, mais commençons par les réalités. Au XVIe, XVIIe siècle, il y a déjà des livres dont les auteurs, je pense à Cervantes avec le Don Quichotte, calculent quel pourrait être leur succès.
Ou du moins, ils fantasment sur le succès. Effectivement, Don Quichotte, dans la deuxième... Cervantes, la deuxième partie de Don Quichotte, fait parler le chevalier à la triste figure sur le succès de la première partie qui a été éditée 10 ans plus tôt, en 1605. Et il y a toute une série de chiffres fantasmatiques, effectivement, qui apparaissent. Vers le début du livre, on parle de 12 000 exemplaires. Puis Don Quichotte, un peu plus loin, explique, je cite, « On a mis sous presse 30 000 exemplaires de mon histoire. Il y a l'apparence que si le ciel n'y remédie, on en imprimera 30 000 milliers. » 30 000 milliers à l'époque, c'est quelque chose qui, évidemment, est absolument mais inconcevable. Enfin,
Oui, mais Don Quichotte rêve.
Don Quichotte rêve.
Il est dans les moulins à vent. Il y a des goulots d'étranglement qui empêchent, encore au début du 19e siècle, que les chiffres s'envolent et qu'on atteigne la dizaine de milliers d'exemplaires facilement.
Tout à fait, mais ceci, ça n'empêche pas qu'il y a effectivement des best-sellers au sens propre du terme, c'est-à-dire des ouvrages qui se vendent mieux que les autres. Et en fait, avec cette histoire des best-sellers, j'ai voulu faire, au fond, une histoire du succès littéraire. Et de savoir pourquoi, effectivement, certains ouvrages marchent et d'autres pas, et pourquoi certains ouvrages marchent mieux que d'autres.
Alors, les goulots d'étranglement, quand on a un grand appétit d'un livre dont on sait qu'il est important, ils sont dus à la fabrication du papier, ils sont dus à la capacité d'impression des imprimeurs et ils sont dus aussi au manque de lieux de diffusion.
Et en outre, au problème de l'alphabétisation, si vous voulez, hein, qui est effectivement peut-être, je dirais, le goulot principal dans la France jusque vers le premier tiers du 19e siècle. À partir de la loi Guizot jusqu'à la loi Ferry, effectivement, tout va changer sur ce plan.
La loi Guizot, alors, c'est donc la monarchie de Juillet.
C'est la monarchie de Juillet qui lance l'alphabétisation massive.
Qu'à la même époque, le feuilleton populaire apparaît dans une presse qui a une circulation un peu plus importante qu'auparavant. Et parmi les feuilletons populaires,
qui est effectivement les mystères de Paris, de Gensu.
Voilà, et commenté ici par Jean-Louis Bory.
Quand il paraissait périodiquement dans les débats, il fallait retenir le journal plusieurs heures d'avance, car, à moins d'être abonné, il était impossible de l'avoir dans les cabinets de lecture où on était censé le trouver. On vous riait franchement au nez si vous vous hasardiez à le demander après avoir payé vos 2 sous d'entrée. « Monsieur plaisante, nous en avons 5 exemplaires que nous louons au dehors à 10 sous la demi-heure. C'est le temps nécessaire pour lire le roman de Monsieur Su. Nous en avons un ici Et si monsieur veut prendre rang, il n'aura probablement que 3 ou 4 heures à attendre. Bientôt même, dans ses boutiques, l'ingénu de derrière le comptoir trouva un moyen plus sûr de tondre sa clientèle. Les cabinets de lecture changèrent leur prix, et les 2 sous qui jusqu'alors avaient donné le droit de rester aussi longtemps qu'on le désirait, devinrent le prix d'admission pour 1 heure. Chaque lecteur recevait en arrivant un billet constatant l'heure de son entrée, et la rusée caissière faisait le tour toutes les 10 minutes. Je peux dire sans exagération que les jours où le feuilleton manquait, il y avait comme une dépression intellectuelle dans Paris.
Le manuscrit de Maria Chapdelaine avait été...
Là, on est en train de mélanger les best-sellers. Maria Chapdelaine, c'est une époque postérieure. Le Chourineur, Rodolphe, le maître d'école. Mais on va les entendre tiens, dans une version de Jacques de Baroncelli, 1943.
Entre la chouette et le maître d'école, c'est pas du nouveau.
Ce sont ses parents ?
Oh non, heureusement.
C'est la chouette qui m'a élevé.
Ouais, bien élevé, tu vois le résultat. Ah, c'est pas de veine pour elle qu'elle soit ici jolie.
Il y a des jours, des nuits, où je voudrais être morte.
Il ne faut pas rester ici.
Voulez-vous que j'aille ? Ils ne me laisseront jamais partir.
Vous avez confiance en moi ?
Oui.
Alors venez.
Mais pour sortir, ça va pas être commode. Si t'as besoin d'un coup de main...
Non, je n'aime pas le sang.
Dommage. Mais il va y avoir du spectacle.
On arrive quand même seulement à 50-60 000 exemplaires, malgré tous ces héros extraordinaires.
On arrive à 50-60 000 exemplaires, mais bon, il ne faut pas oublier que beaucoup de Français ont déjà lu, effectivement, sous forme de feuilleton, le roman en question. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que ça n'est qu'un premier coup de maître, si j'ose dire, pour Eugène Sue, puisque son opus suivant, Le Juif errant, fera encore beaucoup plus d'exemplaires que ça. Et d'autre part, pas ne pas oublier non plus qu'on est aussi au début d'une sorte de mondialisation culturelle, et les mystères de Paris vont se vendre, notamment à Londres, plus que Dickens, dit-on, à New York, dans le monde entier, finalement. Eh bien, le Chourineur et la Chouette sont des personnages communs et que tout le monde connaît.
Mondialisation et industrialisation. Sainte-Beuve, au milieu du 19e siècle, parle de littérature industrielle. Alors, on peut dire qu'il y a littérature industrielle quand on franchit le seuil des 100 000.
Oui, non, parce qu'en même temps, Sainte-Beuve en parle à une époque où on est encore très loin de ce seuil des 100 000. Et Sainte-Beuve utilise... littérature industrielle, c'est un peu comme le terme de best-seller, si vous voulez. Ça peut recouvrir des réalités tout à fait différentes. Parce que Sainte-Beuve, qui déteste Balzac, par exemple, accuse l'auteur de La Cousine Bête de se livrer à cette littérature industrielle. Alors qu'à cette époque-là, effectivement, Alexandre Dumas et sa cohorte de nègres et d'employés puissent effectivement faire de la littérature industrielle ou... une industrie de la littérature, c'est probable. Que Balzac le fasse, ça l'est beaucoup moins.
Mais Flaubert déteste la case de l'oncle Tom et dit que c'est de la littérature industrielle.
De même qu'il déteste aussi l'émissaire de Paris. Flaubert, qui a toujours eu et a toujours été abonné quasiment à l'insuccès, sauf pour Madame Bovary, pour des raisons un petit peu annexes, considère qu'au fond, le succès est toujours mauvais signe.
Oui, c'est un long-seller, lui.
C'est un long-seller.
Le succès lui vient tardivement, comme à Stendhal, encore plus tardivement d'ailleurs, à Stendhal. Mais littérature industrielle, le mot prévu par Sainte-Beuve devient réalité quand il y a des bibliothèques économiques, la bibliothèque Charpentier, la bibliothèque des gares, d'Hachette.
Alors, il y a ça, effectivement. C'est-à-dire, ces bibliothèques, c'est un coup de génie des éditeurs français, notamment, qui s'inspirent d'ailleurs de ce qui se passe, notamment en Angleterre et aux États-Unis, qui consiste à raboter les prix de manière considérable et à utiliser à fond les progrès technologiques, notamment en matière de typographie, de production de papier, etc. Balzac en parle d'ailleurs à plusieurs reprises. Et le résultat, c'est qu'effectivement, on a des ouvrages qui coûtent seulement 3,50 francs et qui vont permettre une explosion des tirages et des achats.
Joue aussi la réclame.
Alors, la réclame, alors ça aussi, c'est quelque chose qui, effectivement, est honni, évidemment, par Sainte-Beuve. La réclame apparaît dans ces années-là, en France notamment, et cette réclame, c'est la médiatisation d'aujourd'hui, finalement. Ça consiste à se payer, effectivement, des pages entières dans les revues à la mode, revues des Deux Mondes ou autres, ou dans les journaux à énorme tirage de l'époque, pour faire la publicité, tout simplement, des ouvrages qui sortent.
Dans les années 1920, nettement plus tard, sera maître de la réclame Bernard Grasset, qui publie une lettre sur les conditions du succès.
Oui, alors ça, c'est très, très étonnant. Grasset, bon, c'est l'un des grands éditeurs français du début du XXe siècle, avec Artem Fayard ou Albin Michel. Et effectivement, il a la conviction qu'on peut fabriquer du succès, fabriquer du best-seller. Et de fait, il va réussir un coup absolument génial avec un ouvrage que tout le monde pensait définitivement mort, qui avait déjà fait l'objet d'une édition que personne n'avait lue, c'est « Maria Chapdelaine » de Louis Aymon.
Le manuscrit de Maria Chapdelaine avait été envoyé par lui-même au journal Le Temps. Et il est mort avant d'avoir su que son manuscrit était accepté. Le manuscrit est revenu au journal Le Temps avec la mention décédé. C'est un beau jour, en ouvrant le journal, que mon grand-père a vu le feuilleton de Maria Chapdelaine.
Pour savoir ce que représente Maria Chapdelaine pour les Canadiens d'aujourd'hui, nous sommes allés mener notre enquête tout d'abord à Montréal.
Est-il un Canadien ou un Français de la France?
C'est un Français de la France, mais il a vécu au Canada.
Louis Aymon, oui. Il a écrit Maria Chapdelaine.
Qu'est-ce que représente aujourd'hui pour le Canadien Maria Chapdelaine?
Rien.
Maria Chapdelaine, pour moi personnellement, c'est révolu. Je pense qu'on ne doit plus associer Maria Chapdelaine au Québec.
Maria Chapdelaine a été écrite à la fin du siècle dernier, à peu près. Le Canada, depuis, c'est un état moderne. Maria Chapdelaine étant avant tout un roman de mœurs, paysanne, forestière. Dans certains coins de campagne canadienne, je suppose qu'on doit encore trouver certains points communs, mais à l'état de traces, simplement.
Je ne suis pas un paysan. Je viens d'une grande ville et...
Une histoire paysanne.
Non, c'est très ennuyant. Non, je ne comprends pas les vaches et les arbres, les choses comme ça.
Mais disons, ça représente le Canada, disons, tel qu'on le concevait il y a quelques années.
Est-ce qu'il a un point commun avec le Canada d'aujourd'hui?
La neige, peut-être.
Reportage en 1971, donc 50 ans après le succès de Maria Chapdelaine. Il avait fait un peu des coups de bluff, hein, gonflant les tirages, notre ami Bernard Grasset. Mais donc, les best-sellers se fanent.
Les best-sellers se fanent. Bon, ceci dit, là, en l'occurrence, d'après ce témoignage, c'est plutôt
le paysage qui change.
Le paysage qui change et le côté sociologique de Maria Chapdelaine qui, effectivement, ne correspond plus à la réalité canadienne des années 60. Ça, c'est indiscutable. Par ailleurs, il y a effectivement des best-sellers qui se fanent alors que d'autres subsistent et même fleurissent de plus en plus. C'est-à-dire des ouvrages qui ont une mode plus ou moins durable, parfois extrêmement brève, et qui ensuite sont complètement oubliés. Et de fait, on rejoint ici ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire l'industrialisation de la littérature. Plus un livre, si je puis dire, est industriel, plus il ressemble à ce que les juristes appellent une chose de genre, autrement dit quelque chose qu'on peut remplacer par une autre chose du même ordre. Je pense aux immortels ouvrages de nos Marc Lévy et Guillaume Musso ou Daniel Steele contemporains. Eh bien... Ce sont des choses qui s'oublient très vite, qui se fanent presque aussitôt que sorti.
Alors, puisque vous parlez de Marc Lévy, que vous en faites un témoin des industries culturelles d'aujourd'hui, à des charges, voici un témoignage qu'il a produit à TF1.
Si la littérature ne doit être qu'un tout petit nombre de livres réservés à une élite extrêmement intellectuelle et intelligente, alors il faut... que nos intellectuels aient le courage de le dire, de dire la lecture, c'est réservé à une élite. Les autres, vous ne pouvez pas lire. Voilà. Mais c'est pas ça la littérature. La littérature, c'est un très grand escalier. Et il n'y a pas d'escalier qui existe dans une première marche. Mais moi, si je suis la première marche, ça me va très bien. Lorsque l'on dit d'une façon critique et méchante que mes livres se lisent dans le métro, celui qui dit ça n'imagine pas à quel point ça me fait plaisir. Si mes livres ne servaient qu'à permettre aux gens qui sont dans les transports en commun d'oublier la noirceur du tunnel du métro, ça me suffirait déjà.
Certes, mais bon, on l'oublie tous aussi bien en lisant Cervantes ou Louis Ferdinand Céline ou Nabokov.
Oui, mais il dit, Marc Lévy, que c'est la première marche d'un escalier. Et ça, vous contestez. Vous dites que beaucoup de lecteurs s'arrêtent à un premier palier.
Sincèrement, je ne crois pas que quelqu'un qui commence par lire Marc Lévy va ensuite lire effectivement Cervantes, Nabokov ou Louis Ferdinand Céline. C'est l'une des raisons qui m'avait fait un peu m'intéresser à cette question des best-sellers. Un article de Gabriel Mazneff, pourtant mieux inspiré souvent, qui expliquait que les jeunes gens qui lisent Harry Potter à 10 ou 11 ans liront forcément Stendhal à 17 et Saint-Augustin à 25. Moi, je crains que... j'ai quelques petits camarades qui ont commencé par lire Le Seigneur des Anneaux quand ils étaient jeunes et qui lisent toujours Le Seigneur des Anneaux 40 ans plus tard. J'ai peur que ceux qui ont commencé par Harry Potter finissent par Harry Potter ou finissent par ne plus rien lire du tout.
Michel Lafon, qui édite des best-sellers bien souvent, pas seulement, a constaté que les grands lecteurs souvent s'en détournaient et que les best-sellers étaient destinés à des lecteurs occasionnels. Alors il a imaginé le livre qui tient tout seul. Et sur un buffet, il n'y a pas besoin qu'il soit dans une bibliothèque et qu'il soit tenu par d'autres.
C'est ça, c'est le livre meuble, en fait, dont les Goncourt parlaient déjà au 19e siècle.
Le calcul fait partie de la préparation d'un best-seller. On recherche un créneau. Voici à Lecture pour tous. Chez Pierre Desgroupes, on ne négligeait pas, M. Frédéric Rouvillois, les lecteurs occasionnels. À la télévision donc française, en 1960, le couple des auteurs, et notamment le monsieur, il n'y a pas que Anne Gollon parmi les auteurs d'Angélique.
Angélique est née de la façon suivante. En somme, c'est un produit de notre misère d'anciens coloniaux, puisque nous avons perdu notre situation, moi, d'industriel en Afrique équatoriale.
J'ai été ruiné.
Du jour au lendemain, comme tant d'autres Français. Alors, nous sommes rentrés en France. Nous avons éprouvé beaucoup de difficultés. Oui. J'avais déjà 50 ans.
Vous voyez que vous aviez été inscrit au chômage, est-ce
vrai? Ah, j'étais inscrit au chômage. J'ai fait la queue avec les gens à Versailles. Ils m'avaient donné des tickets de douche populaire. Enfin,
et alors là, un jour, vous vous êtes dit, il faut que j'écrive un best-seller?
Oui, c'est-à-dire que ça s'est présenté un peu. Ma femme me disait que c'était quand même son ancien métier. Moi, je répliquais que je n'y connaissais rien, que bien sûr, j'avais écrit également un roman qui a eu un petit succès comme elle-même, mais que ça ne menait pas très loin.
Et alors l'idée vous est venue de faire un roman complètement préfabriqué?
Oui, en quelque sorte, c'est-à-dire on nous a dit qu'il y avait la possibilité, peut-être, n'est-ce pas, d'écrire quelque chose, enfin un roman historique, genre Caroline Chéry, ou bien Autant n'emporte le vent.
Oui. Vous aviez lu Caroline Chéry autant d'années.
Eh bien, avant, jamais, parce que j'avoue que, n'est-ce pas, comme Madame je suis ingénieur, que ma femme est plutôt intellectuelle, alors elle ne s'occupait pas du tout de ce genre de littérature.
Et alors, vous avez étudié le problème du roman populaire comme vous étudiez un problème technique.
Exactement, oui. Ça nous a intéressés, et je dirais presque amusés, vraiment.
Après que, par ordre de Louis XIV, Geoffrey de Peyrac, comte de Toulouse, eût été brûlé comme sorcier en place de Grève, Angélique survit. Traquée par la police du roi, elle se réfugie à la cour des miracles. Elle refait fortune et décide enfin de reconquérir sa place à la cour en épousant son cousin Philippe de Plessis-Bellières.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Frédéric Rouvillois, une histoire des best-sellers chez Flammarion quand on en arrive à l'époque d'Angélique, on est presque dans l'industrie culturelle, c'est-à-dire qu'il y a des noces entre l'adaptation à l'extrait d'un film de Borderie, là, il y a un instant, et le livre.
Alors tout à fait, ça c'est quelque chose qui est très, très intéressant et tout à fait caractéristique effectivement du XXe siècle, c'est la combinaison finalement du livre avec d'autres médias et en particulier bien sûr, alors on avait tenté déjà la chose auparavant avec le théâtre, hein, mais avec le cinéma on a évidemment une dimension qui est infiniment supérieure. Et on constate, par exemple, enfin, j'ai regardé un petit peu les chiffres et les listes de best-sellers américains, par exemple, pour écrire mon ouvrage. Pratiquement, entre 1940 et 1970, la totalité des livres qui figurent dans la liste des 10 meilleures ventes américaines font l'objet d'un film dans l'année ou dans les deux ans qui suivent.
De la part de l'auteur, c'est parfois volontariste. Vous racontez comment Ian Fleming, l'auteur de James Bond, s'est préparé à ses noces.
Il s'est préparé à ses noces parce que c'est un type qui est quand même supérieurement intelligent, qui fabrique effectivement très volontairement un best-seller, en l'occurrence Casino Royale, qui est écrit en 1952. Et Avant même d'avoir signé avec son éditeur, il appelle le correspondant du journal où il travaille à Los Angeles pour lui demander combien on paye à Hollywood pour un projet de scénario de ce type-là.
Il s'est acheté une machine à écrire ?
Alors, effectivement, et avec les droits d'auteur, il s'agit d'une machine à écrire plaquée or. C'est un détail absolument saisissant et délicieux.
Bon, ce qui vous intéresse le plus quand même, il faut qu'on... Maintenant, on remonte notre pente, Frédéric Rouvillois. C'est pas le best-seller rare qu'on vient de décrire, qui peut atteindre des dizaines de millions d'exemplaires, 100 millions pour les 13 titres d'Angélique. Ce qui vous intéresse, c'est le best-seller inattendu. Et Pierre Nora de la maison Gallimard il a beaucoup écrit aussi sur ce sujet. Tenez, puisqu'on parle de la maison Gallimard, on est dans une époque où on célèbre son centenaire. Gallimard a souvent chassé le best-seller, mais voilà ce que disait officiellement à la télé, à la radio canadienne, Gaston Gallimard.
Ici Jacques Languirand qui vous parle de Paris. À notre micro, M. Gaston Gallimard, fondateur et directeur de la nouvelle revue française Librairie Gallimard. M. Gallimard, peut-on faire marcher une maison d'édition en ne publiant que les livres de jeunes écrivains inconnus?
Il faut aussi, bien entendu, publier des œuvres commerciales pour financer les jeunes auteurs. C'est pourquoi, si j'avais eu alors plus d'expérience, ou si une vie pouvait être commencée, j'aurais plutôt choisi ou je choisirais la plomberie ou les produits pharmaceutiques pour pouvoir mieux ensuite publier ce qui me plairait et sous la forme qui me plaisait, sans souci commercial. Être épicier pour être mécène. Car pour moi, le seul plaisir du métier d'éditeur est dans la chasse, le dépistage, la révélation, bref, la découverte.
Oui, enfin, le dépistage des best-sellers aussi.
Oui, et puis l'épicerie peut avoir effectivement des rapports assez étroits avec l'édition. On le constate de nos jours également.
Il fait attention à la concurrence, Gaston Gallimard.
Il fait attention à la concurrence. Il fait attention notamment à casser la concurrence. Hein, dans l'histoire des best-sellers, il y a notamment la fameuse histoire du Goncourt raté de Louis-Philippe d'Anian Céline. Céline se voit attribuer le Goncourt en 1932 pour Le Voyage au bout de la nuit par le jury qui se réunit avant la date. Sauf que entre cette date-là et la date officielle, la date véritable d'attribution du Goncourt, Gaston Gallimard fait jouer ses lobbies. Et une semaine plus tard, eh bien, Céline apprend que finalement, il ne l'a pas et que le Goncourt est attribué, comme par hasard, à un roman médiocrissime de Guy Mazeline, Les Loups, publié chez Gallimard.
Mais quand il fait une erreur, Gaston Gallimard cherche à la corriger. Il n'avait pas voulu de Céline. Il a fini par le récupérer, c'était pas facile,
oui.
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Quand la rumeur arrive... Nous sommes avant la guerre de 1939. Du succès d'Autant n'emporte le vent, le titre n'existe pas encore en français, aux États-Unis, Gallimard laisse passer l'occasion, les droits sont achetés par Hachette.
C'est ça, il laisse passer tout d'abord, enfin il se tâte finalement, donc il laisse passer. Et puis finalement, une autre rumeur arrive, celle d'un film qui va être tourné sur le sujet avec quelques grands acteurs. Et là, il se dit que, bon, Hachette, finalement, n'était pas tellement soucieux de prendre le risque d'éditer un ouvrage aussi massif que celui-ci. Et donc, Gallimard réussit à récupérer les droits. Et
le livre est publié en février 1939, 700 pages, dites-vous.
700 pages, extrêmement compact.
Très serré.
Et c'est effectivement le succès immense que l'on sait.
À l'exposition Gallimard de la BNF, on voyait exposer les essais de titres tels qu'ils avaient été présentés par le comité de lecture. C'est Jean Paulhan qui l'avait emporté en choisissant « Autant en emporte le vent ».
Fred, où allez-vous ainsi ?
Je vais à Charleston. Berceau de ma famille.
Mon chéri, emmenez-moi.
Non.
Fred, si vous partez, où vais-je aller? Que vais-je devenir?
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Oh, sans lui, il ne me reste rien. Que faut-il que je fasse? Plus rien ne compte à présent.
Me faire croire qu'Eddy Scarlett ou Hara, que Tara ne signifie rien pour vous. Mais voyons, la terre, c'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui dure. Il vous reste une raison de vivre plus forte que votre amour pour moi, Tara. C'est de la terre que vous tirez votre force, de la terre rouge de Tara. La terre, c'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui dure. Il vous reste une raison de vivre plus forte que votre amour pour moi, Tara. C'est de la terre rouge que vous tirez votre force, de la terre rouge de Tara. La terre, c'est la seule chose qui compte. Plus forte que votre amour pour moi, la terre rouge de Tara.
Oui, bon, la fin mythique, effectivement, d'Autant emporte le vent. Mais Autant emporte le vent qui, et c'est là qu'est le miracle, en l'occurrence, a failli ne pas voir le jour, puisque, en fait, Margaret Mitchell est une ex-journaliste rangée des voitures qui, logiquement, n'aurait pas dû voir éditer son livre. Elle l'écrit un petit peu pour se désennuyer de sa vie de femmes mariées sans enfants, et elle ne songe même pas à l'envoyer à un éditeur, et remplit des enveloppes de papier Kraft du tapuscrit de son roman. Et un beau jour, eh bien, il y a un éditeur new-yorkais qui fait une petite visite dans le sud des États-Unis. Elle le rencontre un peu par hasard à un déjeuner, et l'une de ses copines qui déjeune avec elle, eh bien, dévoile le poteau rose à l'éditeur. L'éditeur demande à Margaret Mitchell s'il peut voir le roman. Elle refuse d'abord, mordicus. Finalement, le lendemain, elle lui apporte, alors que l'éditeur va partir. L'éditeur prend les enveloppes en question. Il constate que c'est une espèce de fouillis invraisemblable où il n'y a pas de premier chapitre, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de conclusion. Enfin, mais il regarde et éditeur de génie, il comprend qu'il y a un trésor dessous. Et voilà.
Le flair, c'est le début, un chèque de $500.
Oui, mais ce n'est pas la seule explication du miracle. Il faut que le livre corresponde à une sensibilité du moment qui l'embrase.
Oui, mais bon, en même temps, on parle effectivement toujours de l'ère du temps à propos des best-sellers. Et on explique que tel ouvrage a réussi grâce à l'ère du temps. C'est ce que Younger, par exemple, explique à propos du Voyage au bout de la nuit. Le voyage correspond à l'ère du temps, donc c'est pour ça qu'il a été effectivement cet immense succès, qu'il a connu son immense succès. En réalité, il me semble que assez souvent, c'est un moyen de dire qu'on ne sait pas. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que l'ère du temps ? Au même moment, il y a des bluettes sentimentales qui réussissent parfaitement bien. Et par exemple, en 1929, aux États-Unis, il y a deux titres qui cassent la baraque, si j'ose dire. C'est « À l'Ouest, rien de nouveau » de Remarque, qui n'est quand même pas très gay. Et c'est de Anita Loos, « Les hommes préfèrent les blondes ». Alors, l'ère du temps, c'est quoi ? C'est là
le
ou c'est
l'autre ? Le 20e siècle, c'est le siècle des best-sellers américains. Vous expliquez qu'aux États-Unis, sur les listes des meilleures ventes sur un siècle, il y a quelques dizaines de titres non anglophones au maximum qui arrivent à se glisser. En même temps, il y a des best-sellers qui viennent du Diable Vauvert, Millennium, Murakami du Japon, oui, 4 pas. Millions d'exemplaires oui. Déjà, il sort en France cette
Paulo
rentrée.
Coelho, effectivement. Mais bon, ceci dit, il s'agit quand même de cas extrêmement limités. On les compte sur les doigts d'une main et encore. Hein. Pour l'essentiel, malgré tout, il y a effectivement une mondialisation de la culture, mais une mondialisation qui est une mondialisation asymétrique, si j'ose dire, parce qu'effectivement, on a beaucoup plus de chances de faire un best-seller lorsqu'on a commencé aux États-Unis que lorsqu'on a commencé en, oui. Corée du Sud, au Japon ou au Portugal.
Vous dites dans votre histoire des best-sellers chez Flammarion, il y a eu un siècle espagnol, un siècle français, un siècle anglais, un siècle américain, ça correspond grosso modo aux périodes de domination. Murakami dit... Je regarde mon succès et j'en suis à me demander si la culture d'un pays comme le mien, le Japon, n'est pas d'autant plus attractive que son économie est en train de se dégrader.
Oui, c'est un paradoxe qui est intéressant. Bon, ceci dit, il contredit assez largement, d'une part, l'histoire des best-sellers, justement, parce que voilà, les grands best-sellers anglais, par exemple, c'est les best-sellers de la domination anglaise au 19e siècle. Les best-sellers américains, c'est ceux du 20e siècle. Ceci dit, au XVIe siècle, on disait la même chose pour l'Italie. L'Italie sinistrée des guerres et de la division, c'est l'Italie de la Renaissance.
Enfin, rappelons quand même que dans les plus grandes ventes de tous les temps, il y a la Bible, le Coran, Mao Tse-tung aussi. On va finir, j'imagine, à cause de la patte de Jacques Cigale par un propos anticlérical.
Tout ça pour faire du fric et du fric. Voilà.
Voilà, c'est Coluche. On commence maintenant dans le générique par un extrait d'archives de Radio Vatican et on finit souvent par Coluche. Rassurez-vous, chers auditeurs, demain, nous atteindrons des sommets, non pas dans les chiffres, mais dans la montagne, puisque nous parlerons de Gaston Rébuffat. La réalisation Jacques Sigal, Lydvine Caron, Patrick Henry, la préparation Meryl Meneghetti, Franck Olivard et Frédéric Martin. Chez Mathieu Vidard, tout à l'heure, les étourneaux. Dans beaucoup de villes, on se demande comment s'en débarrasser.